Ici, Moscou. La pensée à travers les faits. Avec Françoise Compoint.
La Bretagne voit rouge, analyse de Yannick Hurien. La Bretagne voit rouge, c'est cette fois le registre figuré s'associe au registre littéral grâce à l'image des fameux bonnets rouges qui semblent droit sortis de l'histoire de la Révolution française. Foin des taxes discriminatoires, de l'hégémonie étouffante d'un Paris incapable de s'autogérer, du peu de cas que la centralisation suprême fait des provinces livrées à ses caprices. Comme la France, Dieu merci, ne manque pas de gens de conviction et que la Bretagne, particulièrement belliciste pour sa part, regorge, c'est avec une très grande satisfaction que nous pûmes recenser près de 30 000 manifestants réunis le 2 novembre à Quimper, tous contre les fameuses écotaxes et pour l'emploi dans une région qui en manque cruellement. Ces 30 000 personnes qui ont redonné un peu de vie un jour où l'on se souvient de ces chairs trépassées, sauront-ils s'organiser en un mouvement bien solide ou seraient-ils condamnés à se taire comme se taisent les plus grandes tempêtes au petit matin ? Monsieur Yannick Hurien, breton de fait et de cœur, c'est le moins qu'on puisse dire, journaliste de talent et responsable de la radio Care News, nous a fait part de ses considérations en la matière.
Alors bonjour monsieur Hurien, merci donc d'être avec nous sur les ondes de la Voix de la Russie.
Bonjour.
Voilà, alors ma première question sera tout de suite très ciblée et donc ça sera par rapport au mouvement des bonnets rouges. Alors 30 000 manifestants se sont rassemblés avec leur bonnet rouge le 2 novembre pour notamment protester contre l'introduction tout à fait discriminatoire des écotaxes. Le mouvement semble prendre quand même de l'ampleur. Or, selon Romain Pasquier, qui est professeur à Sciences Po Rennes, là je cite carrément, il y a un fort risque que le mouvement fasse pchit. Il y a ce bon vieux principe de l'État de diviser pour régner. Il y a tant de revendications diverses. L'État pourra faire procéder à un saupoudrage qui permettra de passer la crise et les municipales, mais ne remettra pas les filières sur leurs pieds. Donc, fin de citation. Alors, monsieur Hurien, qu'est-ce que vous pensez de cette hypothèse ? Le mouvement pourrait-il réellement être avorté en l'absence de forces politiques capables de le prendre en charge ? Voilà.
Alors, d'abord, personne ne peut être en mesure de dire ce que ce mouvement va devenir. C'est comme une étincelle. Cette étincelle est en train de produire une petite flamme. Et maintenant, en fonction évidemment du vent qui va souffler au cours des prochains mois, des conditions climatiques, va-t-il pleuvoir ou non ? Est-ce que ces flammes vont se transformer en brasier ? Dans quelle direction vont-elles aller ? Il y a évidemment une énorme incertitude. On peut chacun, de notre point de vue, en fonction des informations que l'on a, de la connaissance du terrain que l'on a, essayer, en toute subjectivité, de dire ce que l'on pense. Et ce que l'on pense, moi, ce que je pense, c'est que j'ai eu une longue conversation avec Thierry Mérette, qui est quand même l'organisateur de ce mouvement, puisque c'est le patron du principal syndicat agricole de Bretagne, la FNSEA du Finistère. Et lors de ce long entretien que j'ai eu avec lui, j'ai essayé de savoir plusieurs choses. D'abord, est-ce un mouvement catégoriel ? Est-ce qu'il avait conscience qu'il avait agrégé autour de lui différents mécontentements, un mécontentement des paysans, un mécontentement des travailleurs, un mécontentement des patrons de petites entreprises et des commerçants. Oui, il en a conscience. Est-il content de cette agrégation ou est-ce que finalement il aurait pu tenir un discours corporatiste en se contentant de dire « nous, on est les transporteurs et les agriculteurs, on est contre l'écotaxe, et puis même si le gouvernement recule, tout ira très bien. Ce qui concerne les autres, eh bien, ce n'est pas notre problème. » Eh bien, c'est pas du tout cela. Oui, il est content, il a envie que ce mouvement des bonnets rouges se développe, et il revendique même la tentacule des bonnets rouges, la pieuvre des bonnets rouges, qui doit concerner tout le monde, tous ceux qui en ont marre d'un ras-le-bol fiscal. Alors évidemment, en France, il est de bon ton de critiquer ceux qui démontent les radars, ceux qui démontent les portiques. On a entendu un ancien ministre de l'Agriculture, de l'opposition, UMP, Bruno Le Maire, dire que c'était une honte et que c'était tout à fait scandaleux parce qu'on s'attaquait au bien de l'État. Mais le bien de l'État, il faut bien comprendre que pour ces gens-là, que pour les travailleurs, que pour les patrons de petites entreprises, ces portiques écotaxes, c'est une guillotine fiscale. Donc, quand la guillotine coupe la tête de chaque camion qui passera sous cette guillotine, évidemment, au moment de cette révolution, on a envie de casser cette guillotine.
D'accord, je vois, monsieur. Donc, en fait, vous pensez que c'est pas seulement, enfin, le fait qu'il y ait quand même 5 portiques qui étaient abattus, pas très longtemps.
Et des radars automatiques.
Et des radars automatiques, effectivement. Vous pensez que c'est pas une tempête qui va prendre subitement fin, c'est vraiment un galop d'essai, un début de révolte plus généralisé, ou qu'est-ce que ça pourrait être? Bon, je comprends bien qu'on est dans la subjectivité, comme vous l'avez dit, mais tout de même, ça se développe, ça prend de l'ampleur, je veux dire.
Alors, je ne crois pas que l'on va aller vers une révolution, comme on l'a entendu à Quimper, c'est-à-dire des routes bloquées.
C'est une exagération.
Des radars systématiquement détruits, il ne faut pas du tout exagérer, parce qu'en France, on sait très bien que pour une révolution, il faut déjà que les personnes n'aient plus à manger pendant 5 ou 6 repas. À partir de ce moment-là, il y aura une révolution. Mais comme les grandes surfaces sont encore pleines, que les frigos sont bien garnis en France, et que jusqu'à présent, personne ne meurt de faim, du moins dans des conditions dramatiques comme on peut le voir dans certains autres pays, on n'en est pas encore au stade d'une révolution. En revanche, il y a déjà la première victoire, c'est la contagion intellectuelle, la sympathie politique qui s'est développée à travers ces bonnets rouges qui ont été créés par une entreprise bretonne qui s'appelle Armor Luxe. Il faut savoir que les magasins Armor Luxe sont actuellement submergés de demandes, de clients qui viennent dans les boutiques. Est-ce que vous avez les fameux bonnets rouges de ces manifestants? On veut emporter. Donc c'est déjà quelque chose de très symbolique, mais de très politique. C'est-à-dire que même les gens qui ne descendent pas dans la rue, qui ne manifestent pas, des petits commerçants, vous portez actuellement en Bretagne, moi je l'ai fait, j'ai fait le test de mettre un bonnet rouge et de conduire, vous avez des gens qui vous klaxonnent et qui vous disent bravo.
Bravo, alors oui, effectivement. D'accord, oui, alors monsieur Urien, ma troisième, puisque vous répondez d'une manière tout à fait exhaustive, donc j'enlève une question d'emblée. Donc ma troisième et dernière question, un petit peu plus spécifique. Alors, vous savez mieux que moi que sous l'ancien régime, le Parlement de Bretagne a bel et bien existé. Il a été créé sous sa forme finale en mars 1554 par un édit d'Henri II, c'est bien ça. Puis dissous par la Révolution française en février 1790. Bon, alors maintenant sur Facebook, par exemple, et puis dans bien d'autres sources internet, on peut trouver des appels au rétablissement de ce Parlement. Est-ce que vous croyez que cette initiative soit à terme réalisable? Est-ce que c'est une chimère? Et puis, si c'est réalisable, en quelles circonstances cela pourrait se faire?
D'abord, en matière d'histoire, vous savez aussi bien que moi que dans l'histoire des peuples et des nations, tout est réalisable. Et ce que l'on pensait être irréalisable quelques mois plus tôt, l'est devenu.
C'est vrai.
Je vous rappelle que c'était la même chose pour le retour du général de Gaulle au pouvoir en France. C'était totalement irréalisable et que ceux qui prenaient le retour du général de Gaulle au pouvoir passaient pour des farfelus, des fantaisistes. Donc c'est un peu la même chose. Donc je serais tenté de vous dire avec prudence que pour l'instant, je pense que c'est irréalisable parce que les gens ont bien d'autres préoccupations. Vous êtes remonté sur des préoccupations politiques, historiques, que les gens n'ont pas toujours cette culture historique. On a le poids des médias. Donc c'est à prendre avec une certaine précaution, mais d'abord tout est possible. Mais ce qui est très important, c'est que ce ras-le-bol fiscal contre cette guillotine fiscale, qui est le symbole de cette guillotine fiscale, c'est le portail de l'écotaxe, mais ça va même plus loin. Parce que la destruction des radars automatiques montre bien que ce n'est pas purement catégoriel et que ce ne sont pas simplement les transporteurs, c'est grosso modo un ras-le-bol contre tout cet État qui nous empêche de travailler, de produire de la richesse et qui est là en permanence pour nous prendre quelques euros. Ce ras-le-bol, il est net, il est clair, chez les travailleurs comme chez les petits patrons. Maintenant, de là à ce que ces revendications aillent beaucoup plus loin, je pense qu'il va falloir laisser passer un peu de temps, tout va. Mais c'est vrai que tout est ouvert.
D'accord, il faut donner du temps en temps, comme disait Mitterrand, en effet. D'accord, monsieur Rien, merci beaucoup pour ces réponses très complètes, et donc au plaisir de vous retrouver sur nos ondes.
Et François Mitterrand disait aussi qu'on peut prendre la France avec une vingtaine de personnes qui sont bien déterminées.
Mais il avait tout à fait raison. Oui, c'est vrai.
Voilà, donc on peut déstabiliser la France avec quelques milliers de personnes qui sont aussi déterminées.
C'était Françoise Compoint pour La Voix de la Russie. Très bonne soirée à vous tous, au revoir.